Il était une fois trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, j'ai décidé de les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Ça y est, ils sont de retour. Eric, Donna, Kitty, Red, ces noms vous sont peut-être familiers, vous les avez déjà entendus quelque part. Je parle bien sûr de That 70's Show, série de 1998 à 2006 qui nous racontait l'histoire d'ados et de leur famille durant les années 70. Et les voilà, moins de 20 ans plus tard, de retour sur nos écrans pour refaire vivre les personnages, cette fois-ci plus âgés et dans les années 90. Car après tout, pourquoi pas flirter avec le kitsch des ambiances rétro. Aïe, oui, ça fait mal de me dire que la décennie dans laquelle je suis née désormais vintage et qu'on s'arrache des t-shirts de fast fashion avec écrit mon année de naissance en pleine poitrine. Et pourtant, raconter des histoires d'un autre temps, ça existe depuis un certain temps. D'American Graffiti en 1973 par George Lucas, qui nous racontait l'adolescence de la décennie précédente, à la comédie musicale Grease de 1978, qui se plaisait à mettre en scène les ados des années 50 et qui continue d'être adapté et réadapté depuis, les exemples ne manquent pas.
Oh, and Mr. Larkin, perhaps you'd like to share with the rest of the class Patrick Henry's immortal last words.
Kiss my ass?
Allez, citons justement quelques exemples pour s'amuser. Dans les années 90 apparaît sur nos écrans Freaks and Geeks, une création de Paul Feig qui raconte l'histoire de, oui, vous avez gagné encore et toujours d'adolescents cette fois-ci dans les années 80. Plus récemment, on peut parler de Stranger Things dont l'esthétique 80s cartonne. HBO et Prime s'y sont mis aussi en proposant pour l'une la série Winning Time sur l'ascension des Lakers et pour l'autre Air, un film sur la création de la fameuse basket Nike en partenariat avec Michael Jordan. Et surtout, n'oublions pas la série dont tout le monde parle depuis l'an dernier, Yellow Jackets, qui alterne les scènes dans les années 2020 et les flashbacks dans les années 90.
Who did that?
Did what?
That pornographic drawing. It's a very brave person that does something anonymously.
It's a very brave person who does that. It's still illegal in many states, you know.
I can't wait until next year when all of you are in Vietnam. You will be pining for the day when someone was trying to make your life easier. And when you're over there, and you're in the jungle, and they're shooting at you, remember you're not dying for me because I never liked you.
Et pourtant, malgré cette effusion de retour dans le temps et de clin d'œil nostalgique, une époque semble bien se démarquer plus que les autres. Je fais bien évidemment allusion aux années 70. Salut à toutes et à tous, je suis Sophie Gliocas, bienvenue dans J'ai pas sommeil, le podcast de pop culture et féministe. Je suis autrice et j'adore les années 70. Et pour être honnête, il suffit de se balader un peu partout sur les réseaux sociaux pour réaliser que je ne suis pas la seule. Le regain de popularité d'ABBA n'est qu'une infime partie de l'intérêt porté à cette décennie. Quarry, The Offer, Mrs. America, Daisy Jones and the Six, Minx, White House Plumbers, la saison 4 d'American Crime Story, c'est bien simple. Toutes les chaînes et toutes les plateformes de streaming semblent décidées à avoir leur propre série Made in 70s. Et comment leur en vouloir alors que le marketing leur donne raison? Des jeans flares, je ne sais pas comment on dit. À la déco orange-marron de l'époque, au brushing jean de Farrah Fawcett, les années 70 ont la cote. Mais pourquoi est-ce que cette époque nous fascine-t-elle autant et pourquoi tout le monde a décidé de surfer sur la vague? On pourrait répondre à cette question par une affirmation très simple. La mode est un éternel recommencement. Et voilà, sujet terminé, c'est la fin de l'épisode de ce podcast. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. À la prochaine. Non, bien entendu, c'est plus compliqué, car la période des années 70 est souvent vue comme une période d'entre-deux. Une décennie passerelle entre les années 60, qui ont été secouées par des événements majeurs comme le printemps de Prague, la fin de la guerre d'Algérie, mai 68, Woodstock, avec un rayonnement économique et socioculturel des États-Unis et du Royaume-Uni absolument hors norme et qui a perduré. Et de l'autre côté, les années 80, beaucoup moins glamour marqué par la grande pauvreté, le recul des droits humains, des femmes notamment, le fameux backlash comme l'appelle la journaliste Suzanne Faludi, et la victoire des mouvements conservateurs marqués par l'ère Reagan. Autant dire qu'avec les années 70, on se retrouve un peu le cul entre deux chaises.
Vous êtes nouveau ?
Oui, monsieur.
Ah, laissez-moi vous dire qu'après les femmes et les chiens, le meilleur ami de l'homme est le créole crème. Vous m'écoutez ?
Oui, monsieur.
Une gorgée de rhum blanc, ajoutez un peu de citron, un tiers de vermouth frais non glacé et une petite dose de grenadine. Agitez longuement, ajoutez de la glace pilée, j'insiste, agitez, et servez dans une coupe. Et mettez une olive.
Deux.
Vous m'avez parlé?
Non.
Non, c'est moi qui ai dit deux.
Deux, vous étiez parfait jusqu'aux olives. Oui, deux olives. De cette manière, vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre.
Je vous avouerai que le spectacle de deux olives s'entrechoquant mollement l'une contre l'autre est un plaisir dont je me priverai. Une seule...
Oh, mais vous n'allez tout de même pas séparer une paire.
Pourquoi pas?
Bah, c'est cruel. Deux. Non, mais je vous parie que vous allez me remercier.
J'ai tout de même le droit de boire ce que je veux. Une.
Ne l'écoutez pas. Deux. Oui, vous buvez ce que vous voulez, mais éduquez-vous un peu. Deux. J'ai quand même des chances d'être au courant. Enfin, le créole crème est une boisson de chez nous.
Oh, alors vous devriez savoir qu'elle vient d'un pays du Sud, créé par un homme de goût. Il était donc de mon pays. Une olive.
Ah bon? Ah, je savais pas ça.
Si vous voulez d'autres leçons.
Ah, je pensais vous rendre service, tout simplement.
Oh, eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas quitter le bar?
Mais pourquoi ça? Après tout, qui n'aime pas les années 70, cette décennie marquée par des expérimentations musicales du côté du rock, l'avènement de nouveaux genres musicaux, comme le disco, qui est à son apogée. Côté de la littérature, on lit Shining, Le Choix de Sophie, et puis de grands noms émergent, comme John Irving ou encore Toni Morrison. À la télé, c'est l'avènement du divertissement. Aux États-Unis, les programmes se font nombreux, avec l'émergence de séries sur des flics, des détectives notamment. Et en France, qu'est-ce qui se passe? L'ORTF n'existe plus à partir de 74, alors qu'elle symbolisait le monopole de l'État sur la radio et la télévision française. Avec De Gaulle, qui a porté à son paroxysme cette mainmise, Valéry Giscard d'Estaing, alors président, va créer trois sociétés, TF1, Antenne 2 et FR3, qu'il va mettre en concurrence. Si les chaînes restent encore sous sa tutelle à l'époque, les heures de télévision diffusées augmentent, des programmes s'adaptent selon l'audimat, les contenus se diversifient. Bref, la télévision se professionnalise, ou peut-être, faut-il utiliser un autre mot, elle s'industrialise.
Et combien ça coûte, ça?
Cette pièce assez particulière doit pouvoir se vendre 1 200 $.
1 200. Et ça s'appelle esprit d'un chien mort.
Mais il y a un jeu de mots avec un chien qui mord.
Et ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Je vois pas très bien le titre.
Ça?
Oui.
Ah, ça, c'est le conduit de ventilation de l'air conditionné.
Le conduit de ventilation.
Oui.
Oh, je suis confus.
Non, je vous en prie.
Vous le direz à personne.
Non, ne craignez rien. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt ce qu'on appelle un traditionnaliste. Alors, si vous voulez me suivre, je vais vous montrer quelques paysages et couchers de soleil.
Oui, alors là, je vais vous faire un aveu, madame. Des paysages et des couchers de soleil, il y en a chez moi des dizaines pour la simple et bonne raison que ma femme les peint elle-même.
Ah, vraiment?
Oui, elle achète des canevas avec des numéros dessus. Ça se vend tout fait, voyez-vous. Il n'y a plus qu'à mettre les couleurs à l'endroit marqué qui correspond au numéro. Et ça reconstitue le tableau.
Les films ne sont pas en reste. Après le courant un peu intello de la nouvelle vague dans les années 60, on a besoin d'accessibilité, de grand public. C'est l'heure des films à gros budget, des effets spéciaux, des longues files d'attente devant les cinés. Tout le monde veut voir Star Wars, Mad Max, le code Hays qui régissait jusqu'alors les films hollywoodiens en imposant la représentation des bonnes mœurs de la société au cinéma est désormais révolue. On peut être subversif, provoquer, jouer avec les limites. Et en parlant des limites, les révolutions estudiantines de la fin des années 60, dont mai 68, ont permis de pas mal bouger les lignes. La culture adolescente émerge, les ados ont droit à des produits, à des œuvres spéciales conçus pour eux. On se balade en jean, on porte des t-shirts, des baskets, sans que ce soit mauvais genre. Bref, les années 70, c'est la décennie de l'excitement, du renouveau. Et ce renouveau ne se traduit pas seulement dans une explosion de créativité, dans une frénésie artistique et culturelle. Car les années 70 connaissent aussi un tournant politique non négligeable. On parle de libération sexuelle post-mai 68, avec durant la décennie suivante la poursuite de la deuxième vague du féminisme. France crée le MLF, le mouvement de libération des femmes autonomes non mixtes qui utilisent des gros mots comme patriarcat, droit à l'avortement, contraception. Les années 70, c'est aussi l'après du mouvement des droits civiques, avec le Civil Rights Act de 1968, qui est le dernier dispositif qui vise à mettre fin aux discriminations racistes, ethniques et religieuses sur le sol américain. Et n'oublions pas non plus l'amplification des voix des militants LGBT+, suite aux émeutes de Stonewall en 69. En 72, on a aussi droit au premier rapport du Club de Rome, où on nous alerte sur la croissance économique, la limitation des ressources et l'évolution démographique de notre planète. Mais à l'époque, l'écologie, tout le monde s'en fout. Vous l'aurez compris, dans les années 70, ça bouillonne. L'héritage de la fin des 60s est bien présent. On s'interroge, on remet en question, on veut révolutionner, que ça bouge et les gens y croient. Là, c'est censé vous rappeler quelque chose. Et oui, difficile de ne pas voir les similitudes entre les années 70 et les années 2015-2020. Entre MeToo, les marches pour la planète, Black Lives Matter et les droits des personnes transgenres, nous aussi ça bouillonne. Pour certains même, ça bouillonnerait trop. Du côté des réacs, qui paraîtrait qu'on se prend trop la tête, qu'on ne peut plus rien dire, qu'on questionne trop, qu'on remet trop en question, qu'on interroge et déconstruit beaucoup trop de choses. Et pourtant, les réacs adorent dire que si c'était utile dans les années 70, dans les années 2015-2020, ça ne l'est plus et qu'on en ferait beaucoup trop. Si la comparaison ne vous convainc pas, pourtant, j'en ai d'autres pour vous montrer à quel point c'est pertinent de voir des similitudes entre les années 70 et notre époque actuelle. Alors qu'en 73, les États-Unis s'engagent à retirer leurs troupes du Vietnam, l'année 2021 est marquée par l'annonce du retrait des troupes américaines en Irak. On continue ? Bien sûr qu'on continue. En 2020, alors que le monde est confiné, tout le monde se prend à rêver de nightclubs, de discothèques et de pistes de danse où se trémousser jusqu'au bout de la nuit. Et lorsqu'on sait que dans les 70s, c'était justement l'avènement du disco et des nightclubs, on ne peut s'empêcher de voir les similitudes. Et pourtant, s'arrêter à ces références plutôt positives, voire optimistes, qui sentent bon le progrès, c'est avoir une vision très biaisée des années 70.
They tripped over clues.
We'd like to see all the material requested by the White House.
All White House transactions are confidential.
His whole thing is a cover-up, it's right on our nose.
And piece by piece, they solve the greatest detective story in American history. At times, it looked as if it might cost them their jobs.
You guys are about to write a story that says the former attorney general, the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a crook.
Their reputations.
Why is the Post trying to do it? I don't know.
Perhaps even their lives.
Si je vous dis 1973 et 1979, vous me répondez « gagné le premier et le deuxième choc pétrolier ». Les années 70 sont marquées par de violentes crises, les prix s'emballent, c'est l'inflation, un petit mot qui doit vous dire quelque chose, et le pouvoir d'achat tire la gueule. En France, à cette même période, c'est l'essor du chômage de masse. À 3,5% en 75, il passe à 5% en 1979 pour poursuivre sa lancée dans les années 80. Et quand on ne peut plus se chauffer, se payer à manger, se loger, qu'est-ce qu'on fait ? Bingo ! On arrête de croire en l'État. En France, on a l'impression de se faire avoir, on n'a plus confiance dans les pouvoirs publics. On atteint tout de même du 13, voire du 14% d'inflation, de quoi nous faire presque, je dis bien presque, relativiser la situation actuelle. La confiance dans le gouvernement fédéral décline aux États-Unis, l'État-providence, on sait plus ce que c'est, on sait plus ce que ça veut dire. Et vous savez ce qui se passe quand on se méfie de l'État ? On offre un boulevard parfait pour les idées de droite. Les années 70 sont un terrain fertile pour la multiplication de mouvances spirituelles et les croyances chrétiennes conservatrices en font partie. Car aux États-Unis, si Ronald Reagan, président profondément conservateur et très à droite, a pu s'imposer durant la période suivante, c'est bien parce que toutes les 70s ont été un moment charnière pour le renouveau de la droite. Au Royaume-Uni, les grèves se multiplient. Durant l'hiver de 78-79, le pays est tellement troublé que la période sera renommée l'hiver du mécontentement. Et malheureusement, c'est la difficulté du gouvernement à gérer ces grèves-là qui va... paradoxalement, contribuer à amener Thatcher au pouvoir. Je sais, ça n'a aucun sens, mais si l'histoire en avait du sens, ça se saurait. On boude les institutions, on nous persuade que ce qui prime, c'est l'individu sur le collectif, que ce n'est plus l'heure à la solidarité, mais à la réussite personnelle, qu'une société saine, c'est une société où chacun doit se battre pour survivre, se dépasser et réussir, le reste n'étant qu'une douce utopie. La droite récupère aussi tous les termes si propres à la gauche, comme identité politique, droit civique, pour les détourner et les vider de leur substance. Ah, ça c'est sûr que le féminisme libéral n'a rien inventé de nouveau.
Is it me or the gals never happy?
Not when the gals are only making 56% of what the men make.
So you won't be happy till you make 100% of what men make?
Yes.
Notre regard actuel permet d'avoir un regard beaucoup plus critique et avec du recul sur cette période. Mais on a tendance à oublier que la décennie suivante, les années 80, qui ont été beaucoup plus dures, encore plus violentes, elles ne se sont pas déroulées ainsi, par hasard. Peut-être qu'au-delà de voir les années 70 comme un terrain de jeu inspirant et bon enfant, devrions-nous profiter de sa mise en lumière pour tirer des leçons, pour voir les signaux d'alerte, pour lutter et pour éviter que l'histoire ne soit, comme la mode, un éternel recommencement. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas sommeil. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à rajouter une étoile, un like, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Et ciao !